Dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il est celui qui suit. C'est la façon dont l'Éternel s'était présenté à Moïse, mais les Juifs refusent de l'entendre. Alors Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. » Fin de citation. Le but de Jésus en venant sur terre était de révéler Dieu, mais il ne comprenait pas de quoi il parlait ou ne voulait pas comprendre. Alors il leur dit que la pleine compréhension de sa nature, qu'il est le divin Fils de l'homme, ne sera possible que lorsqu'il aura été élevé au sens double de crucifié et de glorifié dans les cieux. Ce titre de « Fils de l'homme » que Jésus utilise est tiré du prophète Daniel. Je cite le passage. « Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je fis venir quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. » Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Fin de citation. Lorsque Jésus sera sur la croix, ce sera la première étape vers son éventuel couronnement de roi de l'univers. Je continue le texte. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Versets 29 à 30. Le Fils est uni au Père par des liens d'amour et d'obéissance constantes. À la fin de ses journées, Jésus savait qu'il avait accompli exactement ce que Dieu lui avait prescrit, ni plus ni moins. Il n'était jamais frustré ou stressé. Quel exemple pour moi qui brasse beaucoup d'air. Malgré son rejet officiel par les autorités juives, certains dans la foule sont impressionnés à cause de ses miracles et de l'autorité avec laquelle Jésus enseignait. Pour l'instant, ces gens ont une foi très faiblarde, mais on en retrouvera quelques-uns lors de la Pentecôte, au tout début de l'Église, lorsque, suite à un discours de l'apôtre Pierre, 3000 personnes acceptèrent véritablement Jésus comme le Messie. Je continue. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Versets 31 à 32. Ces Juifs croyaient au message de Jésus et au royaume à venir de manière très cérébrale, sans pour cela s'être engagé personnellement. L'obéissance à la parole de Dieu est la preuve d'une foi authentique, celle qui procure la vie éternelle et affranchie du pouvoir du péché. La connaissance de la vérité est la ferme conviction que Jésus est le Fils de Dieu et que son œuvre sur la croix est la seule voie au salut. Je continue. « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ?» Verset 33. Ces Juifs ont une drôle de conception de la liberté. Ils semblent ignorer leur histoire passée et présente. Les Hébreux furent esclaves en Égypte, puis en Assyrie, ensuite à Babylone et en Perse. Finalement, ils étaient sous la botte de Rome. Ceci dit, ce n'est pas d'une oppression politique dont parle Jésus, mais de celle du mal, du péché, des tares personnelles qui nous empoisonnent la vie. Je continue. « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Verset 34. En réalité, les auditeurs de Jésus n'étaient pas libres politiquement et de plus incapables de respecter la loi morale de Dieu. Ils étaient dirigés par leurs passions et leurs vices. Jésus personnifie le péché sous les traits d'un maître cruel. L'apôtre Paul exprime la même idée. Je le cite. « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Fin de citation. Je continue. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Versets 35 à 37. Dans l'Antiquité, le fils et l'esclave dépendaient de l'autorité du père de famille. Aucun des deux n'était autonome, pourtant l'un des deux est libre et ne peut être ni vendu ni chassé. Il fait partie de la maison du Père. Jésus en est le Fils. Sous l'autorité de son Père, il a le pouvoir d'affranchir les esclaves. Les religieux de tout poil qui suivaient la loi de manière légaliste étaient en fait assujettis à ses rites et ils n'étaient pas des enfants de Dieu. D'ailleurs, lorsque, en l'an 70, le temple fut rasé par les Romains, les Juifs qui ne périrent pas furent vendus comme esclaves. Être libre n'est pas devenir un libertin à l'égard de Dieu, c'est au contraire dépendre de lui comme un fils. La libération de l'esclavage au péché se manifeste par le désir de faire la volonté de Dieu. Les Juifs se prétendaient les descendants d'Abraham, mais s'ils l'étaient vraiment, ils ne désireraient pas tuer Jésus. La vraie postérité est fils spirituel d'Abraham. Je continue. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Versets 38 à 40. Jésus établit une distinction bien nette entre son père et celui de ses auditeurs qui ne peut être Abraham, car leur attitude ne correspond pas du tout à celle du patriarche. En effet, celui-ci reçut les envoyés de Dieu avec beaucoup d'honneur, puis a obéi au commandement de l'Éternel. Il fut un exemple de foi, d'humilité et de miséricorde. Je continue. « Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. » Verset 41. Les auditeurs refusent toute autre paternité spirituelle que celle de Dieu et font peut-être allusion à une naissance irrégulière de Jésus, qui l'aurait fait considérer comme un enfant bâtard. Je continue. « Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. » Versets 42 à 43. Jésus affirme à nouveau sa position en tant que représentant et porte-parole du Père. L'idée que presque tout le monde est un enfant de Dieu est tout à fait fausse car elle va carrément à l'encontre des Écritures. Cette opinion est la source d'une grande confusion en matière spirituelle. Parce que les religieux avaient de la haine pour Jésus et de très sinistres projets à son égard, leur esprit en était obscurci, ce qui fait qu'ils ne pouvaient comprendre ses paroles. L'apôtre Paul explique cette caractéristique typique des incrédules. Je le cite. « L'homme naturel, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car ce n'est que spirituellement qu'on peut en juger. » Fin de citation. Je continue le texte. « Votre père, c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. » Depuis le commencement, c'est un meurtrier, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Versets 44 et 45. La fermeté des paroles de Jésus révèle l'intensité du débat et la violence des réactions adverses. La lutte se fait âpre. Le diable représente tout ce qui est opposé à Jésus. Depuis la création, il est un meurtrier et un menteur. Il est l'ennemi de la vie et de la vérité. Par son mensonge, il a trompé nos premiers parents et a apporté la mort à toute l'humanité. Satan se représente lui-même alors que Jésus est le porte-parole du Père. Tous les reproches que Jésus fait aux Juifs correspondent à des attributs du diable. En d'autres mots, leur solidarité familiale avec Satan est incontestable. Ce n'est pas Abraham, mais bien le diable qui est le père des religieux. Je continue le texte. « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. » Versets 46 et 47. Plusieurs accusations avaient été lancées contre Jésus, mais aucune n'avait de fondement. Il met ses ennemis en demeure de prouver leur dire, mais ils sont incapables de trouver la moindre faute en Jésus, ce qui aurait dû leur signaler que cet homme n'était pas ordinaire, mais divin. Cependant, les religieux n'étaient pas en état d'accepter ces paroles parce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu, mais du diable. Je continue. Ils répliquèrent, « Nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. » « Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi, au contraire. J'honore mon Père, mais vous, vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe, et il me rendra justice. » Versets 48 à 50. Être traité de Samaritain était une grosse injure. Les gens qui habitaient la Samarie étaient une race hybride au sein de laquelle il y avait eu beaucoup de métissage entre juifs et païens. Leur religion était elle aussi un mélange aberrant. Les religieux accusent Jésus d'hérésie et de possession démoniaque, ce qui est très grave. Les affirmations du Seigneur ne sont pourtant pas celles de quelqu'un qui a un démon. Il recherchait seulement l'honneur de son Père, qui en retour lui rendra justice devant ses ennemis. Ce passage établit un contraste entre la haine de la faune religieuse et l'amour de Jésus pour son Père. Ils veulent le tuer alors que lui voudrait leur donner la vie. Je continue. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. » Verset 51. Une nouvelle fois, Jésus utilise la formule solennelle « Vraiment, je vous l'assure », pour dire que celui qui accepte ses paroles, c'est-à-dire qui il est et qui s'engage à sa suite, aura la vie éternelle. Je continue. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent, « Cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu viens de nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. » « Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, ou que les prophètes qui sont morts? Pour qui te prends-tu donc ?» Versets 52 à 53. Les adversaires de Jésus pensaient qu'il parlait de la mort physique lorsqu'il a dit « Celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais ». En conséquence, les Juifs le maltraitent, car selon eux, il est impossible qu'il soit plus important que les meilleurs hommes qu'a produit le peuple d'Israël. L'ironie est qu'effectivement Jésus ne peut leur être comparé, mais dans le sens inverse, puisqu'il est le Seigneur et Créateur du ciel et de la terre. Je continue. Jésus répondit, « Si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. » Versets 54 à 55. Le dialogue tendu continue sur les mêmes thèmes. La relation qui unit Jésus à son Père relève de la plus grande intimité. Lui ne cherche qu'à lui obéir et à le glorifier, tandis que ses adversaires ne connaissent absolument pas Dieu puisqu'ils sont affiliés avec le diable. Je continue. Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Verset 56. Abraham s'est réjoui à cause des promesses que l'Éternel lui avait faites. En l'occurrence, que toutes les nations de la terre seraient un jour bénies grâce à un de ses descendants. On ne sait pas tout ce que Dieu avait révélé à Abraham, qu'il appelait son ami. Cependant, lorsque le patriarche était sur le point d'offrir son fils Isaac en sacrifice, un ange l'a arrêté et lui a dit d'immoler le bélier pris dans les branches à la place d'Isaac. Cet animal était alors une image prophétique du futur agneau de Dieu qui ôterait les péchés du monde, du moins de ceux qui croiraient en lui. Je continue jusqu'à la fin de ce long chapitre. « Quoi ? Lui dirent-ils alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Versets 57 à 59. Les religieux ne comprennent pas qu'Abraham a vu prophétiquement la venue du Messie. Mieux encore, Jésus, en tant que l'ange de l'Éternel, a effectivement conversé avec Abraham à plusieurs reprises. Il y a maintenant rupture du dialogue. La discussion entre Jésus et les religieux allait bon train, mais s'est durcie au fur et à mesure qu'elle avançait, jusqu'à aboutir à des accusations opposées. Le Seigneur déclare à ses contradicteurs qu'ils ont le diable pour père et ceux-ci rétorquent qu'il a un démon. Le paroxysme du débat est atteint lorsque Jésus s'identifie au Dieu qui s'est révélé à Abraham et à Moïse. Il affirme sa préexistence sur tous les grands du judaïsme. Il avait déjà dit qu'il était le « Je suis » de l'Ancien Testament. En d'autres mots, et pour utiliser une définition moderne, qu'il possédait la même carte de visite que l'Éternel. Mais les Juifs, n'ayant pas trop compris ce qu'il disait, n'avaient pas relevé la remarque. Alors maintenant, Jésus enfonce le clou complètement et se fait très clair. Lorsqu'il dit « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Il se situe ainsi, solennellement, avant Abraham, qui lui est la tête de file du peuple juif. Cette fois-ci, n'est pas coutume, les religieux ont très bien compris ce que Jésus voulait dire. Le fait qu'il déclarait aussi clairement son égalité avec Dieu provoqua une crise. Ses ennemis furent obligés de prendre une décision à son égard sur le champ. Était-il celui qu'il disait être, le Messie, ou bien un imposteur et un blasphémateur? La lapidation était alors le châtiment normal pour cette prétention. Ils choisirent de le tuer à coups de pierre. Mais une nouvelle fois, Jésus échappe de leurs mains, on ne sait pas comment, sinon qu'il devait en être ainsi parce que son heure n'était pas encore venue. Aujourd'hui encore, chaque être humain qui est confronté à la personne du Christ est obligé de prendre une décision vis-à-vis de lui et en fonction de ce que nous rapportent les évangiles et tout le Nouveau Testament. Était-il un illuminé, un blasphémateur qui se déclarait Dieu ou alors véritablement le Messie, le Fils de Dieu? À chacun de choisir en son âme et conscience. Dans le chapitre suivant, le Seigneur va faire un discours dans lequel il s'identifie à la lumière du monde. Précédemment, et parce qu'il affirmait être égal à Dieu, ses ennemis ont voulu le lapider. L'incident suivant, qui est la guérison d'un aveugle né, va illustrer que Jésus est bel et bien la lumière dont nous avons besoin. Il existe un aveuglement spirituel qui est beaucoup plus grave que la cécité purement physique. Ceux qui ont le cœur endurci ne peuvent voir que Jésus est le seul qui puisse éclairer l'âme de tout homme avec la vérité. Lorsque mon ophtalmologue teste ma capacité de vision, elle me donne à lire des lettres bien éclairées. C'est la présence de la lumière qui révèle l'état des yeux. J'ai lu quelque part que dans une mine de charbon en Virginie de l'Ouest, il y a eu un jour un gros coup de grisou et toute une galerie fut plongée dans l'obscurité. Quand finalement les sauveteurs parvinrent sur les lieux du drame avec des lampes de pétrole, l'un des mineurs les entendit et demanda pourquoi ils n'éclairaient pas leurs torches. En fait, toute la galerie était bien illuminée, mais cet homme ne le voyait pas car il avait été grièvement blessé au visage lors de l'explosion. C'est par cette question que tous ont constaté que leur collègue avait perdu la vue. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose.